Avoir un travail, c'est bien. Mais pouvoir choisir son travail, c'est mieux. Chez Actual, c'est parce que nous pensons qu'on a le droit de choisir son travail que nous vous accompagnons pour vous proposer des postes qui vous correspondent. Pour passer le pas, il y a forcément une agence Actual près de chez vous.
Actual, construisons ensemble votre travail.
Il est 9h. Les dernières infos, Anaïs Feugat.
Un nouveau déplacement de population massif dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a commencé ce matin à évacuer, dit-elle, environ 100 000 personnes de Rafah, cette ville surpeuplée du sud du territoire dans laquelle se sont réfugiés 1 200 000 Gazaouis. L'armée israélienne, qui prépare toujours son offensive sur Rafah malgré les mises en garde de la communauté internationale, a donc envoyé des SMS aux habitants de l'est de la ville pour les inviter à partir avec une carte sur leur téléphone portable pour leur indiquer où se rendre, à savoir une zone humanitaire à une dizaine de kilomètres de Rafah où l'armée israélienne a installé des hôpitaux de campagne, des tentes et de la nourriture. Pendant qu'au large du territoire, le port flottant de l'armée américaine devrait entrer en fonction cette semaine. Il doit permettre, Étienne Monin, de livrer grâce aux bateaux qui vont débarquer au large l'équivalent de 90 camions d'aide humanitaire.
Sur des photos diffusées par l'armée américaine, on voit cette gigantesque plateforme flottante grise posée à plusieurs kilomètres de la côte sur laquelle les bateaux qui viendront de Chypre vont déposer des palettes ou des conteneurs qui seront ensuite acheminés par plus petits bateaux sur une jetée construite au sud de la ville de Gaza. Les Américains dirigent l'opération, mais ils prennent soin de se tenir à l'écart de la guerre, dit la porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh.
L'armée américaine ne sera pas responsable de la distribution. On gère la logistique, on construit, on coordonne, mais il n'y aura pas de soldats américains sur le terrain à Gaza.
L'ONU pourrait assurer la distribution dans l'enclave si les conditions de sécurité sont réunies. Elle a maintenant des sites de stockage dans le nord. Le port flottant est un rouage supplémentaire, dit Andrea De Domenico, qui dirige la coordination humanitaire de l'ONU à Jérusalem.
Toute aide additionnelle par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est le bienvenu. Ceci ne doit pas nous distraire de l'accès routier. L'accès routier doit rester la vraie solution pour l'acheminement de l'assistance à 2,2 millions de personnes.
Et avant la mise en fonction de ce port, les groupes armés ont menacé. Ils s'en prendront aux soldats étrangers s'ils mettent le pied à Gaza.
Une action ce matin de Reporters sans frontières devant l'Arc de Triomphe de Paris pour protester contre l'accueil réservé au président chinois. L'ONG rappelle que 119 journalistes sont actuellement détenus en Chine. Xi Jinping est reçu aujourd'hui à l'Elysée pour une rencontre avec Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen afin d'évoquer la guerre en Ukraine. Il n'a jamais condamné l'invasion russe. Et le problème aussi de la concurrence déloyale chinoise, comme le souligne la présidente de la Commission européenne ce matin dans un communiqué. La Chine, écrit-elle, fabrique avec des subventions massives plus qu'elle ne vend. Résultat, une offre excédentaire de produits chinois subventionnés comme les véhicules électriques et l'acier. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône se penche à partir d'aujourd'hui sur l'assassinat de deux membres du grand banditisme tués en 2017 sur le parking de l'aéroport de Bastia. Dans le box, 15 héritiers du gang de la Brise de Mer, ce gang criminel qui a dominé le crime français pendant 25 ans avec attaques à main armée de banques et de fourgons blindés. Les accusés disent qu'ils voulaient venger la mort de leur père. Une 16e accusée attire l'attention, une surveillante de la prison de Borgo qui aurait désigné ses cibles au tueur en donnant un baiser aux deux victimes juste avant qu'ils ne soient abattus, Jean-Philippe Degnaud.
Pendant la longue instruction, Cathy a tout reconnu, tout assumé, tout revendiqué, jusqu'à indiquer au psychiatre que le clan, je l'ai choisi, on n'y touche pas, on n'en parle pas, on le protège, c'est ma famille. Pour son avocat, maître Renaud Portejoie, la jeune surveillante pénitentiaire était petit à petit tombée dans la fascination du grand banditisme corse, comme pour donner du sens à sa vie.
Certains ont évoqué à juste titre aussi le côté un peu romanesque à la Emma Bovary, à savoir qu'il y avait une forme de lassitude dans sa vie de tous les jours. Elle est mère de 4 enfants, elle s'ennuie un peu et je crois qu'elle avait besoin peut-être aussi de ce frisson.
Après 6 années de détention provisoire, c'est maintenant devant les jurés que celle qui semble la plus disposée à s'exprimer va livrer ses explications, promet maître Portejoie.
Elle est courageuse, elle sait qu'elle doit payer pour ce qu'elle a commis, elle assumera. Et j'espère que les jurés comprendront ce passage à l'acte très singulier, cette affaire dans l'affaire, et rendront une justice qui sera intelligente.
Et comme les auteurs principaux de ce double assassinat, Cathy Lamaton risque aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité.
Et le procès placé sous très haute protection policière s'ouvre cet après-midi à Aix-en-Provence. Il y aura 2 mois d'audience. Un jeune homme tué par balle cette nuit à Marseille, dans une cité du nord de la ville. Le ou les auteurs ont pris la fuite. On ne sait pas encore si c'est lié au trafic de drogue. Et puis en athlétisme, le relais 4x400m masculin français, vice-champion du monde l'an dernier, ne s'est toujours pas qualifié directement pour les Jeux de Paris. Il n'y avait que 2 billets ce week-end aux Bahamas, mais les Français ont fini 3e. Il leur reste encore une chance. 2 ultimes places restent à décrocher sur la base des derniers bilans.
Anaïs Feuga, merci. Restez à l'écoute, on est ensemble jusqu'à 10h.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce lundi, je vous raconte la crise en Argentine entre 1998 et 2002. Un pays en faillite économique, maintenu sous respiration artificielle par le FMI.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur Inter.
Grand frais.
Ouais les gars, c'est Alex, votre batteur. Dites, pour le concert de demain, je peux pas, j'ai grand frais. Désolé, mais je préfère les pros du bien manger aux rockers amateurs.
Chez Grand Frais, nos experts passionnés connaissent leur métier par cœur. Écoutez leurs conseils est déjà un plaisir. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais,
le meilleur marché.
Il est 9h06. Et le 7-10 d'Inter continue. Léa Salamé, dans 20 minutes, une actrice et réalisatrice à votre micro.
Et oui, que ce soit devant ou derrière la caméra, comme réalisatrice ou comme actrice, elle est devenue une référence du cinéma français. Elle est aussi nommée ce soir aux Molières dans la catégorie meilleure comédienne. En général, son truc, c'est les rôles dramatiques. Mais là, elle se fait plaisir et joue pour la première fois dans une comédie décalée et potache, L'Esprit Coubertin, qui sort mercredi. Emmanuel Berco est notre invité à 9h20.
La page édito de ce lundi, Média, Bruno Donnet nous parlera de la difficulté d'organiser un débat politique à la télé ou à la radio quand il y a beaucoup de candidats. Difficulté tout simplement à se faire entendre. Culture, Elisabeth Philippe nous dira pourquoi la bêtise peut confiner au génie.
Et puis, ils et elles ont vu leur carrière décoller et ont en commun d'être passés par ici au moment de l'allumage. Cette semaine, on réécoute 4 belles ascensions dans Nouvelle Tête et ça commence avec le phénomène musical de l'année. Yamé, révélation aux dernières victoires de la musique, on l'écoute dans les Nouvelles Têtes de Mathilde Serrel. Ça, ce sera à 9h50, mais tout de suite, Nicolas, votre débat du 7-10.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-10.
Débat ce matin sur le pacte européen sur l'immigration et l'asile, définitivement adopté par les eurodéputés il y a un peu moins d'un mois. Il entrera en vigueur en 2026. Il comprend un certain nombre de dispositions, 2 volets notamment, le durcissement du contrôle des arrivées aux frontières et la mise en place d'un système de solidarité et de répartition des migrants entre États membres. Ce pacte est-il bon ? Est-il équilibré ? Trop laxiste, comme disent les uns, trop punitif, comme disent les autres. On va en débattre ce matin avec Benoît Hamon, qui est directeur de Singa Global, ONG internationale dédiée à l'inclusion des nouveaux arrivants par l'hébergement, l'entrepreneuriat et les activités interculturelles. Vous êtes également ancien ministre. Et Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. C'est un jour historique, s'est félicité la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le jour du vote du pacte migratoire. Historique, on va voir. Avant d'entrer dans les détails, comment jugez-vous pour commencer l'esprit de ce texte, son équilibre général ? Vous n'êtes pas d'accord sur le sujet, on va voir pourquoi. Votre lecture à vous pour commencer, Benoît Hamon.
Écoutez, c'est un texte qui est conforme aux obsessions européennes de vouloir faire de l'Europe une citadelle. Conforme aussi aux paniques identitaires qui sont celles d'une grande partie des élites européennes.
C'est-à-dire ?
Le sentiment aujourd'hui que nos modes de vie, nos modèles économiques, sociaux seraient menacés par les migrations, quand en réalité, quand on regarde la démographie européenne, quand on regarde les enjeux économiques, nous savons pertinemment que si nous voulons conserver un haut niveau de protection sociale, un haut niveau de service public, ce qu'on appelle le solde naturel des naissances, c'est-à-dire la démographie européenne, ne nous permettra pas de le conserver et que nous aurons besoin demain de migration légale si nous voulons pouvons ne serait-ce que conserver nos niveaux de vie et notre train de vie. Et c'est pour ça que c'est un mauvais texte, et un mauvais texte qui, de surcroît, et c'est cela qui m'inquiète, durcit à nouveau ce que sont les politiques publiques en matière d'entrée et de contrôle des entrées aux frontières de l'Europe, et va s'affranchir d'un certain nombre de textes internationaux, la Convention de Genève, un certain nombre de textes sur le droit international maritime. Plus on durcit, plus on s'affranchit des droits fondamentaux qui faisaient la spécificité du modèle européen.
Alors, l'esprit des lois, sur l'esprit des lois, l'esprit de ce texte, Thibaut de Montbrial, avant de vous faire débattre avec Benoît Hamon, quelle en est votre lecture ?
C'est un tout petit pas dans la bonne direction. Voilà la lecture très synthétique. Et pour entrer dans le débat, moi je trouve que c'est très intéressant ce que dit Benoît Hamon, parce que il invoque la prétendue obsession identitaire européenne pour lui opposer aussitôt, sans parler des questions d'identité, une nécessité économique, et pour finir par quelque chose qui pour le coup est juste, hein, je vous avais dit avant le débat qu'il y a un point sur lequel on serait d'accord, c'est que l'Europe aura besoin d'immigration légale. Et le mot a été prononcé par Benoît Hamon. La question aujourd'hui, c'est que il n'y a absolument aucun contrôle sérieux à ce jour des entrées illégales en Europe, et que pour tout un tas de raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, il est quasiment impossible en pratique d'expulser les gens qui sont en situation irrégulière. Donc tout l'enjeu pour l'Europe aujourd'hui, c'est de maîtriser l'immigration. Il y a toujours eu et il y aura un besoin d'immigration. La question, c'est qui, comment et dans quelles conditions. Et je pense qu'on ne peut accueillir correctement que si on maîtrise le nombre des gens qui entrent. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, mais je suis quelqu'un de pragmatique, et je pense que c'est déjà un petit pas dans la bonne direction. Songez quand même une chose que beaucoup de gens n'ont pas à l'esprit, c'est que, à ce jour, l'immense majorité des gens qui rentrent sur le territoire européen ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire qu'on n'a pas leur identité, on n'a pas leurs empreintes, etc. En 2015, quand il y a eu cette fameuse vague migratoire de septembre 2015, les Allemands, finalement, ont accueilli à peu près 1 million de personnes, dont seulement 68 000 identités ont été vérifiées.
Benoît Hamon, sur ce point ?
Non, mais il y a beaucoup de choses. Une chose est sûre, c'est que les politiques migratoires, elles sont pas liées à nos capacités d'accueil. C'est qu'il n'y a pas de problème d'accueil. On est parfaitement capable d'accueillir. La preuve, c'est que nous avons réussi à accueillir 6 millions de réfugiés ukrainiens en quelques mois, ce qui montre que l'Union européenne, quand elle se dote de la capacité à accueillir, le droit au travail, le droit à la formation et la possibilité d'héberger,
elle peut le faire.
Le sujet, c'est qu'elle
ne veut pas le faire.
Elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas le faire aujourd'hui, et elle ne veut pas le faire pour, me semble-t-il, de mauvaises raisons. J'ajoute que Monsieur de Montbrial est extrêmement modéré dans ce qu'il dit là par rapport à ce qu'il écrit habituellement, mais il est partisan de politiques qui sont défendues par ailleurs par le Rassemblement National, par les extrêmes droites en Europe, qui visent à repousser, déporter parfois les demandeurs d'asile, externaliser l'examen de leurs demandes d'asile dans des pays tiers, et au bout du compte, il y a un durcissement de ces politiques qui ne marche pas. Dois-je vous rappeler par exemple que depuis le Brexit 2016 construit et obtenu sur le rejet de l'immigration, les migrations vers l'Angleterre ont été multipliées par deux. Depuis que Meloni a été élue en Italie, les migrations ont été multipliées par deux. Ces politiques ne marchent pas. Non seulement elles ne marchent pas, mais elles se traduisent par quoi derrière ? Par le fait qu'on durcit encore plus les politiques de contrôle aux frontières. On a invisibilisé des personnes. Et quand on parle de migration, juste se rappeler qu'on parle d'êtres humains, comme nous, de femmes, d'enfants, d'hommes qui ont des projets, des histoires, des espoirs, et dont nous considérons aujourd'hui que ce sont des nombres avec lesquels nous jouons, sans par ailleurs jamais leur donner la parole dans le débat public.
Ouais. Sur le fait que les politiques de durcissement ne marchent pas, Thierry de Montbrial.
Thibaut de Montbrial.
Pardon.
Les politiques de durcissement ne marchent pas pour une raison très simple, c'est qu'elles ne sont pas coordonnées. Si nous avions une politique communautaire et le pacte dont on parle, et c'est pour ça que je dis que c'est un premier pas dans la bonne direction. Si nous avions une politique harmonisée, non seulement sur les contrôles aux entrées, la façon dont l'asile est examiné, avec une véritable politique d'expulsion des gens qui ne sont pas accueillis et qui n'ont pas l'asile, mais vers les pays sûrs, vers tous les pays. Si vous voulez,
faut-il qu'ils soient d'accord pour les accueillir.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mais pas contre un chèque.
C'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Contre le fait
qu'on sous-traite notre besoin sécuritaire.
Mais contre le fait, par exemple, que si l'Union européenne, si la Commission décidait demander aux pays d'origine de reprendre tous les expulsables des pays de l'Union européenne faute de quoi une partie de l'aide au développement ne serait pas payée, vous verrez que ça marcherait très bien. La question, en fait, on a un problème. La différence fondamentale de vision entre Benoît Hamon et moi, c'est que Benoît Hamon est dans une vision d'une générosité totalement déconnectée de la réalité, qui consiste à dire qu'à partir du moment où il s'agit d'être humain, mais alors on va parler de terrain. Moi l'autre jour j'étais, puisqu'il m'arrive d'aller sur le terrain à peu près tous les 10 jours, j'étais à Bressuire, qui est une ville des Deux-Sèvres, dans laquelle il y a 10 ans il n'y avait quasiment pas d'immigration, et aujourd'hui il y a une immigration qui d'ores et déjà à Bressuire est considérée localement comme non maîtrisée, qui est extra-européenne, avec une explosion d'un certain nombre de délinquances et notamment de trafic de drogue qui sont liés à des réseaux qui sont totalement connectés avec l'immigration étrangère. Donc moi je veux bien que vous me parliez de terrain. Je termine simplement sur un point, c'est que d'abord le rôle d'un gouvernement au sens large, c'est de protéger sa population et non pas la population mondiale, et qu'il y a pour l'Europe, oui vous l'avez dit en partant directement sur l'économique après, une question identitaire, et que si ce ne sont pas des gens raisonnables qui mettent en place ces politiques, comme il y a 80% de la population européenne qui la veut, elle sera mise en place autrement. Donc on a le choix entre le raisonnable et l'irraisonnable. On ira vers ces politiques.
Benoît Hamon.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'immigration, on ne parle que d'exclusion. On ne revient pas sur le potentiel incroyable qui est celui des nouveaux arrivants et les chances que nous offriraient des politiques d'inclusion.
Ah, la chance.
15% des créateurs d'entreprises, chaque année en France, sont des étrangers. Qui le dit ? Personne. On regarde le niveau de diplôme, au-delà de Bac+2, le nombre d'immigrés diplômés au-delà de Bac+2 est aussi nombreux que les Français. C'est une vraie chance pour nous, un potentiel à la fois de performance de nos entreprises, d'innovation pour notre économie, mais ça, on n'en parle jamais. J'ajoute que ce qui est intéressant, c'est que...
On peut parler de délinquance,
Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de délinquance, on convoque l'origine seulement quand il s'agit de la délinquance des immigrés. Est-ce que si, par exemple, on regarde la délinquance financière qui est réalisée aujourd'hui, qui est en augmentation de 28%, uniquement par des riches blancs, on dit qu'ils sont riches et blancs au moment où ils sont délinquants. Non. Pourquoi est-ce qu'on la convoque uniquement pour les étrangers ? Est-ce qu'il n'y a pas là un fond d'intolérance, de xénophobie et de racisme, monsieur de Montréal.
Pourquoi est-ce que 80% des Européens...
Non, mais je vous pose la question.
Non, mais si c'était si formidable, mais pourquoi est-ce que 80% des Européens en moyenne ne sont pas...
80% des gens qui ne sont pas d'accord avec moi.
Sur toutes les questions...
60% des Français disent qu'ils sont mal informés sur l'immigration. Seulement 6 qu'ils sont très informés. Alors, ils sont 6% comme vous, être très informés, sauf à choisir de ne parler que d'exclusion et pas d'inclusion. J'observe, moi j'écoute, je travaille sur le terrain et j'écoute ça.
Je suis fasciné. Je suis fasciné par la récurrence de la déconnexion totale du réel
Vous n'avez pas raconté grand-chose de très concret. Hein.
Mais écoutez-vous non plus, vous êtes sur une vision en expliquant que l'immigration est une chance pour la France et pour l'Europe, ce qui est une antienne qu'on entend depuis 40 ans, et ce qui amène dans toutes les études d'opinion sur ces questions, la question migratoire, sur les questions de sécurité, sur les questions d'identité, y compris dans l'électorat, d'ailleurs c'est très intéressant, de la France insoumise qui à 45% considère qu'il y a un problème sur ce sujet, et
un point d'accord, si je me souviens, Montréal.
Si vous permettez un point d'accord,
qu'on entende le point d'accord.
C'est que le problème, il existe, que l'angoisse et la peur à l'égard de la migration, elle existe, mais elle a des explications. Savez-vous, par exemple, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés qui le donnait dans un rapport, que les réfugiés en France, seulement 12% d'entre eux déclarent avoir une relation ou connaître un Français qui n'est pas payé pour leur parler. Que 66% des Français disent n'avoir aucun immigré dans leur cercle de leur relation personnelle. Le sujet, c'est qu'on ne se connaît pas. Et à partir du moment où on se connaît, je peux vous dire qu'un boulanger kurde dans un petit village, il change complètement le narratif et les représentations sur l'immigration. Le problème, c'est que vous n'en parlez jamais de ces femmes et ces hommes.
Mais bien sûr que c'est jamais. Puisque je dis, j'ai commencé par ça, et je vais donc finir par ça vu l'heure, c'est que pour accueillir bien, il faut être en capacité que les choses se fassent d'un point de vue du nombre de façon raisonnable.
Mais c'est quoi le seuil ?
Aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça marche quand les gens qui sont éligibles au droit d'asile peuvent être accompagnés et que tout peut être fait pour l'insertion. Allez, regardez, aujourd'hui, depuis 2022, il y a une politique qui a été mise en place par le gouvernement.
En Europe, c'est pas possible, en fait.
Pardon ?
À vous entendre. Vous dites qu'il faut aller voir là où c'est possible. Et en Europe, ça n'est pas possible.
Mais c'est possible dans des conditions, dans des proportions raisonnables et dans des proportions maîtrisées pour accueillir, pour protéger les plus vulnérables, qui sont d'ailleurs les premiers demandeurs. C'est très intéressant. La génération des gens qui ont 40 ou 50 ans et qui sont issus de l'immigration extra-européenne sont les plus demandeurs d'une politique de fermeté et de maîtrise. La question, c'est la maîtrise. Il ne s'agit pas de fermer, il s'agit de maîtriser.
Benoît Hamon.
Mais moi, je pense que faut-il n'avoir pas confiance dans son pays, son histoire et la force de ce pays, la République, pour aujourd'hui avoir à ce point peur de la migration. Oui. C'est fascinant de voir comment le déclassement de la France à l'international est lié aussi à ces politiques de fermeture des frontières.
Quand vous voyez l'évolution et les conséquences culturelles, sécuritaires, sociales de l'immigration et la façon dont tous les peuples européens et la façon dont les peuples européens y répondent, on peut ouvrir. C'est très bien.
Mais moi, je vous pose la question, Thibault de Montréal. C'est la dernière question. Je vous apprends.
Quel
serait l'âge légal de départ à la retraite en France s'il n'y avait pas les cotisations des travailleurs étrangers? À quel âge on devrait demander aux Français de partir? 67, 68 ans, vous assumez ça? Politique d'expulsion, mais aussi à augmentation de l'âge légal de départ à la retraite à 68 ans, vous assumez ça?
Est-ce que vous assumez les revendications?
Non, mais je vous pose la question.
Oui, mais moi je vous réponds, vous assumez les
Moi je défends l'état de droit et la République.
Bien sûr. Il répond à une question par une autre question.
Je réponds à une question par une autre question. Pendant votre campagne électorale, vous n'étiez pas gêné par les bars où les femmes n'étaient pas accueillies. Ça a encore considérablement augmenté depuis. Nous sommes face à un fait qui, Europe, est un fait qui est une conséquence directe de l'immigration. C'est qu'il y a une évolution culturelle qui, je pense, ne correspond ni à notre modèle ni aux vœux des populations européennes.
Exemple de la panique identitaire des élites.
Merci à tous les deux, Thibault de Montbrial et Benoît Hamon. Merci encore. À suivre l'invité de Léa aujourd'hui, Emmanuel Berco, juste après Amy Winehouse. Me and my head. Winehouse, Back to Black sur Inter. Il est 9h24.
France Inter. Le 7-10.
Et Léa, ce matin, vous recevez une actrice et cinéaste.
Oui, réalisatrice. Bonjour Emmanuel Berco.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une discipline olympique, une héroïne de roman et un défaut, vous seriez qui? Vous seriez quoi? Alors, une discipline olympique.
Je pense le tir de vitesse, le sport qui est pratiqué dans le film pour lequel vous me recevez, que j'ai découvert, je vais pas vous mentir.
Vous avez découvert tous les JO en fait.
Ouais, hein, parce que c'est pas vraiment mon monde. Mais j'ai trouvé ce sport intéressant parce qu'il est très solitaire.
On va en parler. On va en parler de ce sport. C'est pour ça que je vous interroge effectivement pour le film dont vous venez nous parler ce matin. Une héroïne de roman.
Alors, si vous le permettez, ce sera plutôt une héroïne de théâtre. Je dirais Phèdre.
Pourquoi?
Parce que c'est une grande amoureuse.
Un défaut?
L'impatience.
Ouais.
Non, vous aimez pas ce défaut?
Je pense que je vais combiner l'impatience, je pense que je l'entends à chaque fois.
Alors, l'émotivité.
Ah, c'est...
Je sais ça, pas vous si l'avez c'est... jamais entendu.
Non, je l'ai jamais entendu. Je sais pas si c'est un défaut.
Bah, pour moi, c'est un défaut.
L'important, c'est de participer ou l'important, c'est de gagner, Emmanuel Berco, dans la vie?
Pour moi, l'important, c'est de participer. Je n'ai pas tellement l'esprit de compétition.
L'important, c'est de participer, c'est la devise des Jeux Olympiques au cœur du premier film d'un jeune réalisateur, Jérémy Saint, L'Esprit Coubertin, qui sort mercredi, avec Benjamin Voisin, Laura Felpin, Grégoire Ludig, une comédie déjantée, grinçante, autour des JO, qui sort 2 mois pile avant les JO de Paris. Très bon timing.
Très bon timing.
Le pitch, les JO de Paris tournent au fiasco. Après 10 jours de compétition, la France n'a gagné aucune médaille d'or. Les athlètes enchaînent les épreuves et sont plus catastrophiques les uns que les autres. Bref, c'est le cauchemar de Tony Estanguet. Tous les espoirs de titre reposent sur Paul, champion du monde de tir, mais jeune homme immature, coincé, pas très malin. Un rôle à contre-emploi pour Benjamin Voisin qu'on avait vu dans Illusion perdue de Xavier Giannoli et dans L'été 85 de François Ozon. Et un rôle à contre-emploi pour vous également. Vous êtes sa coach au caractère bien trempé, ultra exigeante, légèrement castratrice. C'est assez réjouissant de vous voir dans une comédie potache, loufoque, c'est la première fois, qui va quand même assez loin dans le politiquement incorrect, même si elle est très poétique et humaniste aussi, cette comédie. Vous aviez envie de sortir de votre zone de confort?
Mais alors ça, je comprends jamais qu'on me parle de zone de confort comme si quand je jouais... Quand
c'est vous qui le dites. Vous dites
oui,
dans
non, mais ça, c'est que vous avez lu ça dans le dossier de... Non, je pense que c'est une reformulation qui a été faite parce que ce soit pour Benjamin ou moi, donc qui nous aventurons un peu dans la comédie, on n'est pas du tout dans une zone de confort quand on fait du drame.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas plus difficile?
Mais non, pas du tout. La comédie, c'est plus difficile, ça tout le monde le dit. Là, j'enfonce une porte ouverte. Mais par ailleurs, c'est pas pour ça qu'on est dans une zone de confort habituellement. Non, là, ce qui était intéressant et qui nous a plu à tous les deux, c'est justement que le réalisateur Jérémy Saint pense à quelqu'un comme Benjamin et moi pour jouer ces rôles-là. Il aurait pu aller vers des choix beaucoup plus évidents, beaucoup plus attendus. Et il a pris ce risque de venir nous chercher. Et pour nous, ça a été le signe que c'était un auteur, un réalisateur très singulier avec une vraie vision.
Et un vrai univers, une vraie couleur,
Une vraie originalité,
une vraie singularité.
Oui.
Il y a un peu de Dupieux quand même. Il y a un peu dans le côté un peu baroque, absurde.
Il y a un peu de Dupieux,
poétique.
Il y a un peu des films de Jean-Yann que moi personnellement j'adorais.
Ouais.
Il y a un peu de l'univers de Judas Pato, il y a un peu de tout ça, mais en même temps ça ressemble à rien de ce qu'on voit en France.
Mais on sent quand même qu'en ce moment, après avoir prouvé vos talents de réalisatrice dans De son vivant aux têtes hautes, d'actrice avec votre prix d'interprétation à Maïwenn, on sent que vous vous amusez quand même à sortir des catégories, de faire du théâtre, enfin j'ai l'impression que vous vous amusez un peu.
Un peu? Mais moi, de toute façon, moi, je vis pour m'amuser depuis toujours, mais je prends ce métier comme d'abord une chance inouïe. Et puis, mon métier, c'est de jouer. Et donc, de m'amuser, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça, en fait.
On parle de votre coiffure dans le film ou
Ah, j'ai cru que vous allez me dire là maintenant. Je me suis dit merde, c'est vrai que je me suis pas vraiment bien coiffée.
Non, votre coiffure dans le film.
Ma coiffure dans le film, c'est
très improbable.
Ça a été une trouvaille assez déterminante parce que quand je l'ai proposé, c'était comme ça instinctif. J'ai eu cette idée tout d'un coup.
Et des nattes, c'est des nattes. Il faut préciser que c'est des nattes
collées à l'africaine, donc appropriation culturelle à fond.
Ouais.
évidemment un peu ridicule, un peu ringard. Mmh. Et en même temps, quand je me suis vue avec cette coupe, je me suis dit, mais le personnage, il est là, il y a presque plus besoin de raconter quelque chose sur elle. On a tout compris dans sa coiffure. La coiffure, c'est hyper important.
Vous dites qu'il ne faut pas avoir peur ni d'être moche, ni d'être ridicule avec cette coiffure.
Non, il ne faut pas avoir peur ni d'être moche, ni d'être ridicule dans tout ce qu'on fait. En tout cas, en tant qu'acteur, je veux dire.
On va écouter un extrait du film. Vous débarquez à Paris avec Paul, donc dans le village olympique. Et là, l'organisatrice, Laura Felpin, vous explique qu'il n'aura pas de chambre individuelle parce que sa discipline, le tir, c'est pas premium. Donc il va devoir partager sa chambre. On écoute.
Il faut une solution, là. Ah, écoutez, Sonia, sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on le reloge dans la vote de chambre, Taufarbre, à 332, et puis vous partagez la chambre avec Paul.
Ah non, ça c'est... Non, ça c'est non. Non, mais c'est pas une bonne idée.
Pourquoi pas ?
Non, c'est non.
Ouais, mais enfin, Sonia, il y a un moment, vous me dites judo, je dis ok, spring, pourquoi pas, mais enfin, champion de tir, une chambre individuelle. Pas fastoche, ce que vous me demandez là, hein. Vous êtes en déficit de notoriété, en fait, Sonia. Vous vous rendez pas compte, hein. Et vous les connaissez pas, les mecs là-haut, mais ça passera jamais, Sonia.
Et arrêtez de répéter mon prénom, déjà, là. Vous savez qu'on est quintuple champion du monde ? On est en catégorie élite pour le ministère. Et moi, à Pékin, je suis à 0,2 de passer en finale.
0,7.
0,7, c'est pareil. Je suis pas à 1 ou 2 points, je suis à 0,7 points. Ça vous parle ?
Eh bien, c'est moi, c'est ça ?
Voilà. Donc vous allez redescendre, là, parce que sinon, moi, je monte et on va se croiser. Hein.
Voilà, pour donner l'idée, ça fait rigoler Nicolas Demorand.
Oui, c'est vrai, j'atteste que Nicolas Demorand rigole beaucoup.
C'est une réflexion sur la gagne, ce film, sur la win, l'esprit de compétition. Comment s'en libérer, comment s'en guérir, dit le réalisateur. Paul, votre champion, il a un mantra qu'il apprend par cœur et qu'il répète toute la journée, c'est « on vient, on gagne, on s'en va ». Et il comprend tout le long du film qu'en fait, gagner, c'est pas forcément être heureux, c'est pas forcément être épanoui.
Non, c'est que il découvre à travers le personnage de Jacob, qui est un nageur qui vient du Vanuatu et qui ne sait pas nager, qui est là pour dénoncer les tragédies climatiques dans sa région. Et à travers lui, il va découvrir en fait le désir et s'apercevoir que la vie est peut-être ailleurs que là où il croyait, c'est-à-dire dans la gagne et la compétition et la voilà. Performance.
Et il découvre effectivement le désir, le sexe, parce que c'est l'autre histoire du film dans le film.
Et l'humanisme aussi, parce qu'il va se lier d'affection avec cet athlète qui n'en est pas un et c'est ce que raconte le film, hein, finalement. En fait, je trouve que c'est un film sur la fraternité.
Oui. Ouais. Il y a une douceur en
dessous.
En tout cas,
ouais, je suis contente que vous l'ayez vu.
Ouais.
Il y a une vraie douceur. Bah, c'est un film totalement loufoque et en même temps très doux et assez ouaté, assez
ouaté.
Ouais. Non, mais il y a quelque chose d'assez ouaté. Non, je sais que le réalisateur dit qu'il avait envie de faire un film de crèche. Et que le film ressemble à la crèche de sa fille, et je trouve que ça définit tellement bien le film.
Ah, c'est joli. Du coup, vous allez suivre les JO dans 2 mois ou toujours pas ?
Non, je ne les suivais pas avant, c'est pas parce qu'ils auront lieu à Paris que je vais les suivre, non ?
Non, d'accord. Non. Le JO bashing, vous y participez ?
Ah non, par contre, moi, le bashing, c'est pas du tout mon truc.
Ouais. Vous êtes content ?
Oui, je trouve ça génial pour Paris.
Pour la France.
Je pense que les Français sont hyper. Ceux qui aiment le sport sont hyper fiers que ça se déroule chez nous. Plein de gens vont pouvoir voir les compétitions. Moi, je trouve ça très joyeux.
Et puis ce soir, Emmanuel Berco, grand soir quand même. Vous êtes nommée aux Molières dans la catégorie de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre public, dans le diptyque après la répétition Persona d'Ingmar Bergman, mise en scène Ivo Van Hove. Là, c'est important de participer ou de gagner ce soir aux Molières ?
Moi, j'ai toujours un problème avec ces trucs-là, c'est que forcément, ça me ferait plaisir de gagner, mais j'ai trop peur de devoir monter, faire un discours. Donc, au moment où je me dis, pourvu que ce soit pas moi.
À chaque fois, c'est comme ça. Point.
Ouais, c'est compliqué pour moi.
Vous dites que le théâtre, la scène, c'est l'endroit au monde où vous vous sentez le mieux, où vous vous sentez le plus heureuse, plus encore que devant ou derrière une caméra.
Ah oui, sans commune mesure.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a quelque chose de totalement pur, d'abord dans le jeu, puisqu'on joue, le jeu n'est pas fragmenté, n'est pas en petits morceaux, on joue en temps réel, dans une continuité. Et puis on a cet échange avec le public, qui n'existe pas du tout au cinéma. Et puis pour moi, le théâtre, c'est la fondation du jeu, c'est archaïque, ça existe depuis toujours et ça ne disparaîtra jamais. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans quelque chose de totalement organique quand je suis sur une scène de théâtre. Et c'est vrai que ça me rend très, très heureuse.
Vous êtes bien là, quoi.
Oui, c'est ça.
Vous incarnez les deux faces d'une comédienne vieillissante, incapable de trouver sa place dans le monde du spectacle qui l'abandonne petit à petit. C'est un engagement total de votre part dans ce rôle où vous mettez littéralement à nu. La pièce commence, vous êtes nu. La photographe Bettina Reims dit qu'il n'y a rien de plus déchirant que de voir une actrice vieillir, de voir son image se faner. Écoutez-la.
C'est une chose intolérable pour elle. C'est insupportable. C'est insupportable. Une actrice avec laquelle j'ai travaillé a demandé à être éclairée à la bougie, a refusé que je mette des lampes, a demandé à être maquillée à la bougie. On a mis un tissu noir devant le miroir qui était devant la table de maquillage.
Ça pas se regarder.
Pour pas se regarder, pour pas que les autres la voient comme elle était. Et les séances de retouche sont des choses absolument déchirantes.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire que c'est probablement plus difficile pour une actrice de vieillir que pour une femme qui n'est pas actrice, parce que on est sans cesse renvoyé à notre image et que c'est difficile d'abandonner l'idée de la beauté et de la jeunesse quand on est actrice. Mais je crois, moi, enfin, en tout cas, c'est la réflexion que je me fais, c'est si on l'accepte pas, on est très 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 malheureux.
Et vous l'avez accepté, vous dites.
Bah, moi, je l'accepte parce que sinon, je sens que je vais être très malheureuse, parce que malheureusement, je ne peux rien faire pour arrêter la dégradation liée à la vieillesse.
Mais on peut quand même dire qu'il y a de plus en plus de rôles pour les femmes de plus de 50 ans. Je veux dire, les choses sont quand même en train de changer à la vitesse grand V de ce point de vue-là.
Ça, on peut. Moi, je peux le dire en tout cas, parce que j'ai jamais autant travaillé que maintenant. Et évidemment, je suis pas la seule. On est nombreuses dans ce cas-là, et on peut plus effectivement dire qu'il y a pas de rôle pour les femmes de plus de 50 ans. C'est absolument pas vrai. Mais il faut encore que ça progresse. Et que les auteurs soient inspirés d'écrire aussi, parce que le théâtre, il y aura toujours. C'est ça aussi l'avantage du théâtre sur le cinéma, c'est les textes qu'on peut jouer. Mais les auteurs de cinéma ou de séries, il faut qu'ils incluent les femmes qui n'existent plus par leur superbe. Quoique, en vrai, je dis ça parce que moi j'ai fait 3 films avec Catherine Deneuve que je trouve la plus belle femme du monde. Monica Bellucci, pour moi, y a pas plus, elle sera toujours plus belle qu'une fille belle de 20 ans. Enfin, vous voyez.
Dans Madame Figaro, vous disiez petit à petit le regard s'éduque, et je pense qu'au cinéma comme dans la rue, on verra aussi de moins en moins d'hommes de 60 ans avec des filles de 20 ans. Il faut que les hommes acceptent d'être avec des femmes de leur âge.
Qui a dit ça ?
Vous.
Ouais. Oui.
Vous êtes d'accord avec vous-même ou...
Oui, je suis totalement d'accord avec moi-même. Moi, j'ai rien contre les hommes de 50 ans qui sont avec des filles de 25 ans, si ça leur plaît. Ce que je n'aime pas, c'est que la représentation systématique au cinéma de couples avec des grands écarts d'âge ne reflète pas la vie des gens, en fait. Et c'est vrai que systématiquement, on a un acteur de 60 ans en couple avec une fille de 30 ans. Pourquoi ?
Ouais.
Je ne sais pas.
Pourquoi ? Beaucoup de femmes aussi connaissent un franc succès en tant que réalisatrice. Il y a toute la vague, Julia Ducournau, Greta Gerwig, Justine Triet, Mai Wen, vous. Ça bouge dans le cinéma, là ? C'est en train de bouger ?
Ça bouge énormément. De toute façon, tout bouge dans le cinéma, vous voyez bien, sur tous les plans. Ça bouge énormément dans le sens où il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent ce métier et qui accèdent à la... Je crois simplement qu'il faut... Enfin, moi, je ne suis pas stressée là-dessus, parce qu'il faut le temps aux choses de se faire. Il n'y avait pas de femmes réalisatrices... C'est comme il n'y avait pas de femmes chirurgiens, en fait.
Oui, parce que vous vouliez être chirurgien quand vous étiez...
Oui, je dis ça était... parce qu'il n'y avait pas de femmes chirurgiens, et maintenant, il y en a. Et il n'y avait pas de femmes réalisatrices, et il y en a de plus en plus. Il faut laisser le temps de rattraper tout le retard qu'on a pris sur les cinéastes masculins.
Je voulais aussi, Emmanuel Berco, revenir avec vous sur le livre d'Isilde Lebesco, Dire vrai. Il est sorti la semaine dernière, on l'a reçu à la radio ici. Vous ne l'avez pas lu, j'imagine, encore, parce qu'il est sorti il y a 3 jours.
Ben non, je ne l'ai pas lu.
Elle raconte sa relation d'emprise avec Benoît Jacquot, mais elle parle aussi de ses débuts difficiles au cinéma, quand elle avait 14-15 ans, avec plusieurs réalisateurs et réalisatrices qu'elle cite, dont vous, Emmanuel Berco, qui l'a fait jouer dans vos premiers films. Elle raconte notamment une scène sur le tournage de La Puce, votre court-métrage où elle a dû jouer une longue scène de sexe regardant le pénis en érection d'un acteur alors qu'elle était toute jeune. Elle raconte aussi que vous lui avez refait faire sur un autre film plusieurs fois une scène de baffe, que vous lui aviez demandé de maigrir, et elle dit, elle écrit...
Non, j'ai jamais demandé. Vous voyez les amalgames qui sont faits. Je n'ai jamais demandé à Isil de maigrir. Jamais.
Elle écrit, je vais la citer. Je vais citer parce que voilà ce qu'elle dit. Les tournages avec Emmanuel Berco étaient une aventure à la fois géniale et éprouvante, une expérience intime exposée aux yeux de tous. À force, la violence et l'humiliation courantes sur les plateaux me sont apparues banales. En fait, c'est juste qu'elle décrit tout un univers du cinéma, en fait. Et des jeunes actrices de 14-15 ans dans cet univers-là.
J'ai combien de temps, là ?
Une minute, deux
une
minutes.
Une minute, ah oui. Isilde, d'abord, c'est la marraine de mon fils. C'est sans doute la femme dont j'ai été le plus proche de toute ma vie. Je n'ai aucune envie d'entrer dans une polémique avec elle. Je comprends sa démarche. Moi-même, je revisite toutes les étapes de ma vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, avec l'éclairage qui est le nôtre aujourd'hui, grâce à la libération de la parole, etc. Moi-même, j'interroge beaucoup de choses. Je fais partie de ces interrogations, je le comprends. Maintenant, j'apprécie assez peu de servir de chair à canon médiatique de la promotion de son livre et d'être cité ou même de voir ma photo apposée au milieu de plusieurs hommes dont on désigné comme des agresseurs ou des violeurs. Ça, je ne l'accepte pas du tout. Sur cette scène précise, parce qu'à un moment, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi, il n'y a pas de longue scène de sexe dans ce film dont personne ne cite le nom, qui est un film qui s'appelle La Puce, c'est mon film de fin d'études, qui a été réalisé dans le sein d'une école d'État, la FEMIS. Quand on fait tourner une jeune fille de 14 ans, la DAS intervient. Tout ça est très cadré, très protégé. Le film a été sélectionné à Cannes en sélection officielle et il a eu le prix de la Ciné-Fondation. Il est sorti en salle, il a eu une très bonne presse. Ne faisons pas aujourd'hui comme si c'était un film un peu obscur où j'aurais fait faire à Isil des choses pas possibles.
Donc ça vous touche, ça vous blesse en fait qu'elle vous mette dans son livre.
Mais ça me sidère. Ça me sidère parce qu'en fait, personne ne va voir le film, personne ne va regarder de quoi il s'agit. On reprend des propos qu'on...
Et c'est la manière dont
des insinuations très ambiguës.
Emmanuelle Vercoe, c'est la manière dont elle l'a vécu. Elle essaye de mettre des mots une histoire de sa vie.
Elle a dit elle-même qu'à l'époque, ça n'avait pas été une gêne. Et ce plan, s'il vous plaît, que je lui ai fait regarder, c'est un plan de 5 secondes qui raconte justement que la jeune fille aperçoit un bout du sexe en érection du partenaire et elle détourne la tête. Le plan dure 5 secondes et l'histoire de ce film, c'est le dépucelage d'une jeune fille. C'est pas une longue scène de sexe, c'est une jeune fille.
Bon, vous lirez son livre.
Oui, mais moi, enfin, je veux dire, ma parole a aussi une valeur.
Mais c'est pour ça que je vous interroge dessus. Oui. On l'a entendu jeudi, je vous donne la parole parce que vous êtes cité dans le livre et c'est important aussi de dire effectivement votre ressenti.
C'est bien surtout quand on est cité dans un livre de le savoir à l'avance et de pouvoir le lire.
En tout cas, bonne chance pour les Molières ce soir.
Merci.
Et bonne chance pour l'Esprit Coubertin qui sort donc ce mercredi avec Benjamin Voisin, Laura Felpin et Grégoire Ludig. Merci beaucoup Emmanuelle Vercoe d'avoir été avec nous.
Merci Léa.
Et tout de suite, Voyou avec son dernier EP, Seul sur Inter.
Il y a des jours où tout m'irrite, où je ne veux plus parler, où les gens vont bien trop vite pour atteindre mes idées. J'ai les humeurs en panique, des envies de tout casser, pas la peine de me dicter comment faire et quoi penser. Je m'isole, loin du sol, là-haut dans une montagne, à faire des vagues, loin de vos marées. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au seul. Laissez-moi seul ce soir. Y'a des jours où tout m'inquiète, quand j'entends le genre d'idée qu'on enfonce dans la tête des gens mal illuminés. Y'a des choses qu'on accepte tant qu'elles sont pas sous le nez. Ça me fait des maux de tête et des envies d'exploser. Qu'on m'isole, loin du sol, là-haut dans une montagne, je ferai mes vagues loin de leur marée. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au sol. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps de compter mes défauts. Pour leur envoi, ça bouillonne.
Voyou qui sera en concert à Rennes le 17 mai, à Saint-Nazaire le 18. 9h44.
France Inter. Le 7-10.
Et c'est l'édito média avec Bruno Denet. Bonjour Bruno.
Bonjour Nicolas.
Ce matin, Bruno, de la difficulté à mettre en scène la parole politique.
Oui, c'est le constat que j'ai fait hier midi en écoutant le grand débat pour les européennes que diffusaient nos camarades de RTL en association avec la chaîne Paris Première. Ils avaient invité 7 candidats, les 7 principaux, ceux en tout cas que les sondages ont désignés comme tels. Alors l'initiative était courageuse, hein, et d'un point de vue strictement médiatique, tout à fait remarquable, car rien n'oblige en effet une radio privée à organiser un pareil événement dont on sait de surcroît qu'il ne passionnera pas les foules.
Alors, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce débat ?
Eh bien, ce qui m'a sauté aux oreilles, je vais vous le faire entendre, pour qu'on vous compreniez parfaitement bien de quoi je parle, c'est le niveau absolument spectaculaire de la cacophonie qui s'y est imposée.
J'aimerais finir.
Au contraire.
Marie Toussaint pour les écologistes.
J'ai posé une question, vous ne cessez de dire qu'il ne faut pas faire des énergies renouvelables, mais j'ai peine à comprendre.
Parlez pas ensemble, s'il vous plaît, Marie Toussaint.
Très difficile à la radio de comprendre qui parlait, car le tintamarre qui s'est installé quasiment dès le début s'est prolongé tout au long du débat.
Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
C'est
l'hôpital qui se fout de la charité.
Non mais la question est très intéressante.
Le vacarme était omniprésent au point de rendre les échanges totalement inaudibles.
Et à qui la faute ?
Eh bien, assurément pas aux journalistes, car les intervieweurs qui se sont succédés avaient tous des questions parfaitement ciselées, précises, chapitrées et... Et figurez-vous qu'ils avaient même anticipé le risque qu'avec cette protagoniste joyeusement indisciplinée, le brouhaha s'invite dans le débat.
Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît, sinon vous entendrez ça.
Eh oui, un jingle, c'est le bordel, on n'y comprend plus rien, avait été préparé en amont. Le problème, c'est qu'il a retenti un nombre incalculable de fois.
Chacun son tour.
Marie Toussaint, et j'avais dit pour sortir de la cacophonie.
Que votre groupe est le rempart face au détricotage.
Donc, on ne vous entend pas. Vous êtes en train de parler.
Ah voilà, stop, là. Le buzz.
Au point que le fameux jingle boucan est devenu l'un des héros du programme.
Le fait que... Arrêtez, s'il vous plaît. Merci.
Allez-y, la vache.
S'il vous plaît, on n'entend plus rien. Vous parlez ensemble, on ne vous entend plus.
J'avais la parole, monsieur Barrière.
S'il vous plaît, on ne vous entend plus, là. On ne vous entend plus.
On ne vous entend plus a donc passé son temps à marteler le courageux présentateur pendant 2 heures.
Alors qu'est-ce que ça raconte selon vous Bruno, cette gigantesque cacophonie ?
Eh bien elle illustre magistralement Nicolas le niveau qu'a atteint le débat politique dans les médias. Un univers dans lequel trop pressé d'essayer de faire un coup et d'en découdre, des candidats ultra préparés déroulent des petites phrases qu'ils ont apprises par cœur sans jamais écouter ni leurs concurrents ni bien évidemment les questions des journalistes qu'ils ont totalement cessé de respecter au point d'en devenir, au sens propre du terme, totalement inaudible. Hier, le débat de RTL aura eu une grande vertu, celle de nous montrer la politique non pas telle qu'on aimerait qu'elle soit, mais telle qu'elle est.
Bruno Denet, merci. Il est 9h47, l'édito culture Elisabeth Philippe. Ce matin, vous avez choisi, et c'est votre droit, de faire l'éloge de la bêtise.
Les amateurs de pépites vintage, périphrase élégante pour ne pas dire les personnes d'un certain âge comme moi, auront sans doute reconnu le générique entraînant et pas du tout ringard de la série des années 80, Manimal. Pour les autres, celles et ceux qu'on appelle vulgairement les jeunes, sachez que Manimal était un feuilleton de l'époque pré-internet et pré-Netflix dans lequel un certain Jonathan avait la capacité de se transformer en n'importe quel animal. Si je vous parle de Manimal ce matin, ce n'est pas pour vous prouver qu'une fois de plus je suis à la pointe de l'actualité culturelle, mais parce que cette série a inspiré un chef-d'œuvre de la bande dessinée française sorti en 2022. Il s'agit d'Animan, paru aux éditions Exemplaires et signé de l'autrice Anouk Ricard. Dans Animan, le héros ne s'appelle pas Jonathan, mais Francis. Ce n'est pas un beau gosse méché de blond, mais un chauve, à moustache. N'empêche, Francis, comme Manimal, peut lui aussi se transformer en différents animaux. Bon, ok, pas en aigle ni en panthère, plutôt en sauterelle, en mouche ou en ver de terre. Son ennemi juré, Objecto, peut quant à lui prendre la forme de n'importe quel objet. Heureusement, Francis peut compter sur le soutien sans faille de sa compagne Fabienne, une grenouille plutôt sexy et star du réseau Côte Côte, suivie par des célébrités comme Beyoncé ou Patrick Sébastien.
Pardon, mais ça a l'air complètement débile.
Absolument, absolument Léa, et c'est bien là tout le génie d'Anouk Ricard. C'est simple, je ris à chaque page et même à chaque case. Autour de moi, c'est pareil. Et il faut croire que ça va bien au-delà de mon cercle de deux amis et demi, puisque Anouk Ricard a reçu le prix spécial du jury du Festival d'Angoulême en 2023 pour Animan. Non, vraiment, Anouk Ricard, c'est de la bonne. Ses albums peuplés d'animaux anthropomorphes, un canard employé de bureau dans Coucou Bouson, un petit chien en salopette qui doit sauver sa planète et le mage Patrix dans Boule de Feu, ces BD donc, ont un petit côté fable de La Fontaine sous LSD et surtout sans morale. On retrouve le trait naïf d'Anouk Ricard, qui est aussi illustratrice de livres pour enfants, et son humour totalement absurde dans De qui Coco, son album qui vient tout juste de paraître aux éditions 2024. De qui Coco, c'est un peu un mélange de Lucky Luke et de Don Quichotte, dessiné par un enfant de 6 ans qui aurait lu Beckett et Ionesco. C'est donc l'histoire d'un cow-boy canard, de Kikoko, et de son fidèle destrier baptisé Gigit. On les suit dans leurs aventures à travers les plaines du Far West, mais surtout dans des saloons où on sert du whisky lavande, des haricots verts quand le menu propose des haricots rouges, et où on joue au poker avec un jeu qui ne contient que des as. Encore une fois, c'est d'une idiotie qui confine au sublime, et je vous garantis un fou rire à vous arracher des larmes dès la deuxième page. Les albums d'Anouk Ricard illustrent parfaitement le propos de l'écrivain Denis Grosdanovitch dans son livre « Éloge de la bêtise » paru il y a quelques années. Dans cet essai sautillant et paradoxalement fort intelligent, l'auteur démontrait le génie méconnu de la bêtise, de cette bêtise primordiale notamment qui nous permet d'entrer en contact avec la nature et avec les animaux. On pouvait y lire cette phrase, je cite, « La douce hilarité provoquée par l'incohérence universelle m'offre, pour finir, sa joyeuse et rédemptrice suspension de jugement. » Fin de citation. Ce qu'on pourrait aussi résumer par « C'est bon de rire parfois ».
De qui Coco d'Anouk Ricard vient de paraître aux éditions 2024. Merci Elisabeth. Et à lundi prochain, il est 9h51, place aux nouvelles têtes de Mathilde Serrel. Cette semaine, retour sur 4 parcours ascensionnels, 4 talents passés par ici, largement identifié depuis. On commence avec la révélation du rap et de la chanson française. Yamé était dans notre studio. Portrait sonore.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Un piano, des chicots, t'as capté ? La promesse est minimale sur son compte TikTok et attire des dizaines de millions de vues, des cascades de fans absolus. Une légende du R&B américain, le producteur Timbaland s'est même filmé en écoutant l'une de ses impros. Les 4 millions d'abonnés de Timbaland découvrent cet artiste franco-camerounais qui ne se définit par rien d'autre que le mélange. Moitié fils d'une prof d'informatique qui vit avec ses machines, moitié fils d'un musicien de soul makossa qui vit avec ses instruments, à la maison, il joue des deux claviers, l'ordi comme le piano, et se délecte de la variété française comme des tubes de Papa Wemba. Gestionnaire de données dans une entreprise de la tech le jour, pianiste dans les boîtes de jazz le soir, il a fini par se lancer dans un inclassable rap chanté qui lui vaut des comparaisons avec Stromae.
Je tourne la poignée, je froisse le temps. Je roule comme si caca m'attend. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Je chante la bécane.
À 30 ans, il reprend la résidence de Zao de Zagazan aux prochaines transmusicales de Rennes et sort son nouveau projet Hello Oui Yamé, bonjour.
Bonjour.
Ça va pour changer de Stromae, ça vous dit si je vous appelle la nouvelle Zao de Zagazan?
Ou le nouveau Yamé.
Ou le nouveau Yamé, tiens. Mm-hmm. Stromae, vous avez choisi pour ses premières parties quand même avant d'annuler une partie de sa tournée. Mm-hmm. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Ça s'est super bien passé, j'ai été très 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 bien accueilli, j'ai aucune mesure de comment sont souvent accueillis les artistes en première partie, mais en l'occurrence je me suis trouvé vraiment particulièrement bien accueilli, j'ai rencontré ses proches, sa famille, et du coup ça m'a mis dans une ambiance propice.
Et ils sont proches de ce que vous produisez, vous Yamé ?
Oui, alors il y a, je dirais que déjà quand je suis arrivé, ils m'ont dit qu'ils écoutaient la musique, c'est déjà pour moi une énorme proximité, on va dire. Puis après, oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec certaines des personnes de son équipe, carrément.
On a entendu votre reprise de La Bohème au début de ce portrait. Aujourd'hui, Charles Aznavour, il est samplé par la star du reggaeton Bad Bunny. Sa chanson Hier encore cartonne dans la BO de la série Lupin que vous avez regardé avec Omar Sy sur Netflix. C'est le modèle, au fond, pour vous,
Aznavour? Un des modèles, je dirais. Moi, ma particularité, c'est que j'ai vraiment pas qu'un modèle. Je regarde vraiment pas qu'une personne. J'ai du mal, en tout cas, à me concentrer sur une chose.
Il a une internationalisation dans sa proposition, en tout cas, qui peut vous ressembler. Vous vous sentez ni géographiquement, ni culturellement ancré quelque part, Yami?
Oh, quand même un petit peu.
Si.
Géographiquement, culturellement, si, quand même. Je suis quand même très français, très camerounais. Après, ma musique...
C'est votre musique, vous déracinez un petit peu.
Exactement. Pour le coup, je m'inspire de vraiment tout. Mais beaucoup de musique française, quand même. Et de rap français. Beaucoup de la France,
qui
au final, dans ma musique. Dans la chanson française,
ouais.
J'ai écouté beaucoup Fernandel, un petit peu France Gall. En fait, c'est ma mère qui écoutait beaucoup de chansons françaises quand on était petit. Et puis, dans le rap français aussi, je ne saurais même plus citer des noms. Ça va, disons, de Booba, pour prendre son époque, à Captain Roshi aujourd'hui.
Donc Booba est vieux, quoi, son époque.
Mais il représente une époque, en tout cas.
En tout cas, il est avec Fernandel, j'ai l'impression, quoi. En binôme.
J'espère que ça lui fait des honneurs.
Ouais.
Il est content.
Vous avez grandi entre Pontoise en France et Douala au Cameroun. Mm-hmm. Donc, en effet, un pied des deux côtés. Vous dites au Cameroun, je suis français. Ici, je ne suis pas tout à fait. C'est ce que vous déclariez à Mehdi, qui fait cette interview de référence, le code,
oui,
avec tous les rappeurs.
Je pense que c'est un peu une cicatrice de beaucoup d'enfants de la diaspora, c'est d'avoir un pied partout et nulle part à la fois. C'est d'avoir l'impression un peu d'être chez soi dans l'avion, quoi. Quand on débarque au Cameroun, ah mais t'as l'accent français, t'es un français. Et puis quand on est ici, alors pas tout le temps, mais c'est un sentiment qu'on peut ressentir un peu partout, mais auquel il faut s'habituer, j'ai envie de dire. C'est une forme de patrimoine historique, tu vois.
Le patrimoine de la diaspora. En tout
carrément,
cas.
Ouais.
Votre patte, ce sont ces textes qui ont le goût du bitume, qui viennent du rap, et ce chant de crooner qui s'envole dans les aigus. C'est un mélange que vous avez trouvé en autodidacte complet, Yami?
Oui, complètement. J'ai travaillé à la maison pendant le confinement, tout bêtement. J'ai écouté beaucoup de musique.
C'est ça qui vous a fait changer de vie, puisque vous étiez dans une boîte de tech toute la journée. C'est le confinement qui vous fait entrer dans ce projet musical, puisque vous êtes déjà presque très célèbre, mais vous avez quand même 30 ans.
Oui, bien sûr. Je trouve que le timing est parfait pour moi. Ça m'a permis d'entrer dans la bonne manière dans la musique. Et effectivement, le confinement, c'est ce qui m'a aidé à me décider de là où je voulais mettre le curseur dans ma vie, en tout cas.
Donc vous l'avez mis sur la musique, vous voyez où dans 10 ans?
Toujours dans la musique.
Alors je vous laisse vous installer. Je précise que votre mini-album, on peut l'appeler comme ça, s'appelle Eloi, ça veut dire ce qui n'est pas visible. C'est à vous.
Hadjim et je découpe entre ta lapis. Je suis serein, j'ai tapé mon dollari. Sakari, je suis pas seul, même sans l'ami. Comme ça, ma négant, folami. Ce soir, je suis tout seul dans la tour de contrôle. Une petite m'appelle, veut que je la console. Mais ça tryhard, et puis là, je suis pas sur console. Je me tromperai, je fais des loops, je suis sur la console. Chaque pas, c'est un tremblement terrible. Tu t'accroches ou tu pars à la dérive. Mon petit, viens pas tester, on me corrige. T'es une papa dans ma catégorie. Toute ma vie j'ai sauté les parages. Faut que moi j'ai pas besoin qu'on s'arrange. J'suis trop loin vu le skill et la cadence. Mais je charbonne, j'alourdis la balance. Ayum baye, ayum baye, ayum baye, ayum baye, ayum baye.
Magnifique, Ayoumbaye. Yamé, c'était dans Nouvelle Tête. Merci, bonne route.
Et merci Mathilde Serrel. Ali Rebehi, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour Léa.
Grand
bonjour.
Bien vous fasse avec cette belle voix que vous avez, un peu rauque. Dans quelques instants, sur quoi ce matin?
Quels sont les vrais pouvoirs de l'hypnose après l'affaire Gérard Miller? Nous verrons ce matin ce qu'est exactement l'hypnose, comment fonctionne cette immersion dans un état de conscience modifié, que dit la recherche scientifique, quelles sont les règles qui encadrent cette thérapie. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. À tout de suite.
Les infos à suivre.
Bonjour, c'est Isabelle Carré. En France, quand un jeune accueilli par l'aide sociale à l'enfance atteint sa majorité, il peut se retrouver sans logement, sans ressources financières et sans soutien affectif. Pour SOS Village d'Enfants, qui accueille dans ses villages des fratries séparées de leurs parents, c'est inacceptable. Notre association maintient les liens d'attachement avec ces jeunes majeurs, sécurise leur projet de vie et continue d'être là en cas de coup dur. Avec SOS Village d'Enfants, agissons pour que chaque jeune ait quelqu'un qui tienne à lui et sur qui il puisse compter.
Sur Akena.com, les bonnes affaires du moment. Sur Akena.com, je suis au firmament.
Ok Chantal, c'est lourd, mais viens, on la fait plus badass, t'as capté?
Ok Coco, balance l'instru. Sur Akena.com, je kiffe les bons gros deals. Sur Akena.com, je vais skier les crocodiles.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
En France, les crises